Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, nouveau cadeau aujourd'hui pour toi. C'est l'interview que j'ai eue avec Sandra Mahé, l'organisatrice du sommet virtuel des adoptés. Elle est spécialisée dans l'adoption pour les parents qui veulent adopter et pour les enfants qui ont été adoptés. Et ce jour-là, nous avons évoqué le fait d'être coupé de ses émotions, ce que ça a comme conséquence et comment faire autrement pour se réconcilier avec ses émotions. Tu retrouveras tous les liens pour contacter Sandra sur Facebook, sur YouTube. Elle est en train de fonder une école autour de l'adoption. Donc tous ses contacts seront dans l'épisode. Je te souhaite une très bonne écoute. À tout à l'heure.
Merci d'être avec moi, d'être mon invitée pour ce live Facebook pour savoir comment faire la paix avec ses émotions. Donc Séverine, je t'ai rencontrée sur Clubhouse et merci d'avoir accepté mon invitation pour participer au mois des adoptés. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc moi je m'appelle Sandra, j'ai 41 ans, je suis née en Bolivie et j'ai été adoptée à l'âge de 13 mois. Pendant longtemps, je me suis coupée de mes émotions en pensant que ça allait résoudre tous mes problèmes, que je ne souffrirais plus. C'était une grosse erreur de ma part, je ne le savais pas. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur et quand j'ai rencontré Séverine, je me suis dit « mais voilà la personne parfaite ». Pour répondre à toutes ces questions, comment savoir si on est coupé avec ses émotions, comment faire la paix avec elles si l'on est, les émotions sont-elles indispensables ou pas, comment les gérer au fil du temps. Donc merci Séverine d'être là. Je te laisse, mettez-moi des petits pouces si vous connaissez Séverine, je te laisse te présenter.
Bon, déjà, c'est un super plaisir d'être avec toi, de passer à la vidéo après avoir fait autant de rooms en audio, parce que Clubhouse, on n'a que l'audio, on n'a pas la vidéo. Donc, c'est chouette de se voir aussi en presque 3D. Donc, bienvenue sur ce live. Je suis ravie de vous entendre, de vous voir et de lire vos questions tout à l'heure. Donc, moi, j'ai découvert les émotions en étant maîtresse en maternelle. Pendant des années, je voyais les émotions de mes élèves et c'est à travers les émotions de mes élèves que je me suis rendu compte qu'on était très mal formés, notamment des enfants de 2 ans, quand j'ai eu le dispositif de moins de 3 ans. Les enfants de 2 ans sont vraiment des tempêtes émotionnelles à complètement 24 heures sur 24 et les parents témoignaient de ce qu'ils vivaient à la maison. Moi, je voyais en classe que c'était difficile. Les enfants alternaient les phases de peur, de timidité, de colère, de doute, de frustration, de joie, d'excitation, de cris. Donc, si vous avez déjà vu des enfants de 2 ans, vous voyez très bien ce dont je parle. Et en tant que maîtresse d'un groupe de 16, bah, j'ai dû apprendre ce que c'était qu'une émotion. Donc, je me suis intéressée aux émotions des enfants en tout premier. Et j'ai vu que moi-même, je n'avais jamais été formée là-dessus. Et que moi-même, j'étais en partie coupée de mes émotions. Donc, finalement, sans le vouloir, on a eu des trajectoires un petit peu parallèles à ce sujet-là. Voilà, comme première intro.
C'est vrai, on se coupe facilement de nos émotions. Bah, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment toi, tu as passé ce cap? Comment toutes ces expériences avec les enfants t'es réapproprié, entre guillemets, tes émotions? Est-ce que tu as suivi une formation? Est-ce que c'est venu naturellement? Raconte-nous un petit peu.
Donc, c'est bien sûr partie de l'observation de mes élèves. J'essayais de comprendre comment ils s'étaient mis dans cet état-là. Donc, c'est principalement la colère qu'on travaille à l'école, notamment au niveau de la séparation des enfants. Quand ils doivent laisser partir les parents le matin, c'est très difficile. Et c'est un petit garçon qui m'a aidée à vraiment me mettre à jour là-dessus, parce que chaque matin, il était tellement hors de lui, tellement en colère. Et lui, il exprimait très bien son émotion. Hein. Donc, c'est ça qui m'a aidée à comprendre, c'est qu'il refusait tout simplement la réalité. Et au lieu de refuser la réalité et de se couper, lui, il était dans refuser la réalité et l'exprimer, se lancer complètement à corps perdu pour refuser ce qui lui arrivait. Donc, je me suis intéressée aux besoins des enfants à cet âge-là. J'ai découvert la communication non violente. Donc, c'est vraiment un outil formidable. Si vous ne le connaissez pas encore, jetez-vous à Noël, là. Mettez sur la liste de Noël les livres de Marshall Rosenberg qui parlent de la communication non violente. Le plus connu, c'est « Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs ». Et la communication non violente, c'est tout simplement le fait de se reconnecter à nos besoins intérieurs. Donc, tous nos besoins physiologiques, de sécurité, d'apaisement, de développement, d'identité, de sens. Et comme pour les enfants, on a exactement les mêmes en tant qu'adultes. Et d'avoir découvert les besoins des enfants m'a fait prendre conscience que moi-même, mes propres besoins, je ne les connaissais pas, que moi-même, mes besoins en tant qu'enseignante n'étaient pas finalement respectés, nourris, satisfaits. Et ce qui fait que ça m'a débloquée, en fait, en tant que maîtresse, en tant que mère et en tant que femme, tout un pan de connaissances qu'on n'a pas eu en formation, qu'on n'a pas eu peut-être même dans notre parcours scolaire, universitaire, si vous avez fait des études, sans doute qu'il n'y a personne qui vous a dit « tu as des besoins, tu en as une 150aine à peu près de besoins et chaque jour, tu essayes de les satisfaire, de les nourrir. » Et quand ils sont satisfaits, ben, ça veut dire que nos émotions sont plutôt agréables et on va y venir tout à l'heure. Et quand nos besoins ne sont pas satisfaits, nos émotions sont en vrac, sont désagréables. Ce qui fait que ce petit garçon avait des besoins non satisfaits et l'exprimait par une émotion décuplée qui dérangeait le monde extérieur, les adultes. Et on en vient à ton sujet, c'est que les émotions, quand elles sont trop fortes, tout de suite, on les catalogue comme dérangeantes, que ce soit les nôtres ou que ce soit celles de quelqu'un en face. Donc, pour avoir été témoin de gens qui ne savaient pas se contrôler, se gérer et tout ça, vous avez sûrement un souvenir là tout de suite qui vous vient d'une personne qui vous paraissait incontrôlable par rapport à son émotion, qui s'est mise à pleurer d'un coup, qui s'est mise à hurler d'un coup, qui s'est mise à taper sur la voiture parce qu'on lui avait pris sa place de parking. Au quotidien, on voit des gens qui ne savent pas contrôler l'état dans lequel ils se mettent émotionnellement. Donc, je ne vais jamais dire contrôler son émotion. Par contre, je vais dire contrôler son comportement qui a été déclenché par cette émotion. Et d'avoir découvert ça pour mon petit élève, là, de 2 ans, m'a fait comprendre que sa maman était démunie, que sa maman n'avait pas d'outils. Et donc, on a commencé à co-construire des outils autour de l'apprivoisement des émotions par rapport à la question de comment on fait quand on est la maman et quand on voit son enfant en vrac comme ça, et comment on fait, nous, en tant qu'adultes, quand nous-mêmes, on est démunis par notre propre émotion.
Super
donc, ça peut être dans les deux sens. Soit on se coupe parce qu'on ne veut pas admettre qu'on ne sait pas comment faire, soit on se coupe parce qu'on ne veut pas faire porter le désagrément aux gens qui nous entourent. Parce qu'on a peur que ce soit incontrôlable pour eux et peut-être même qu'on a peur que ce soit incontrôlable pour nous. Donc, soit on se dit « on ne sait pas faire », soit on se dit « l'autre ne va pas savoir me gérer », soit on se dit « cette émotion me fait peur tout court ». On ne sait même pas quelle émotion c'est, mais elle me fait déjà peur alors que je n'ai pas essayé de la décortiquer, de la regarder en face, de prendre du recul sur elle. C'est tout ça que j'ai découvert donc, les 6 dernières années avant de monter mon entreprise d'accompagnement aux émotions, à la parentalité. Parce que finalement, quand on fait la paix avec nos émotions, on va tellement mieux dans tous les domaines. La vie pro, la vie perso, la vie de couple, la vie de parent. Donc cette clé-là, je pourrais très bien la présenter à des chefs d'entreprise, je pourrais très bien la présenter à des mamans, je pourrais très bien la présenter à des gens qui n'ont pas d'enfants. Puisque nos émotions, elles sont là, quoi qu'il arrive, quel que soit notre domaine de vie.
J'aime beaucoup ce parallèle que tu fais entre on a des émotions et un comportement en fait, qu'on a derrière. On veut, comme tu dis, c'est vraiment, ça ne m'avait pas frappé avant, on veut contrôler ses émotions, alors que finalement, si on les intègre, mais que derrière, on arrive à se contrôler, à être moins en colère, pas vouloir casser tout ce qu'il y a autour de nous si quelque chose nous fait du mal, c'est intéressant. C'est vrai qu'on, enfin moi, en tout cas, je n'ai pas toujours entendu ce point de vue-là sur les émotions. Et j'aime beaucoup aussi le fait que la colère, tu la relies à quelque chose, une réalité qu'on refuse de voir. Donc, c'est vrai que là, moi, je suis plus dans être coupée de ses émotions. Mais du coup, comme tu disais, comment on sait si on est coupé ou pas de ses émotions? Est-ce qu'il y a des signes en particulier?
La première fois que tu m'as dit le mot se couper de ses émotions, je me suis dit, il y a deux premiers axes qui sont importants. C'est est-ce qu'on en est conscient ou est-ce qu'on n'en est pas conscient? Parce que se couper de ses émotions peut être une attitude volontaire. Par exemple, on sait qu'on va très, très mal, qu'on vient d'apprendre une très mauvaise nouvelle, mais on a le rendez-vous chez le banquier dans 10 minutes. Là, on va se couper de ses émotions. Moi, ça m'est déjà arrivé pour aller donner un cours de danse. Je me suis coupée de mon émotion, de la nouvelle que j'avais entendue, pour assurer, pour faire comme si tout allait bien. Et ça peut marcher pendant une heure, peut-être une journée. Mais très vite, l'émotion qui demande à s'exprimer va rejaillir. Et donc, la conscience qu'on en met, c'est est-ce que je me coupe de mes émotions et que je le sais? Auquel cas, il s'agit d'un temps, d'un tic-tac qui va finir par imploser un jour. Ou alors, est-ce que je ne le sais même pas et que je suis uniquement dans le faire? Et le raccourci que je prends avec les mamans, souvent que j'accompagne, c'est est-ce que vous êtes là pour faire, pour cocher une liste, pour agir, pour avancer? Ou est-ce que vous vous autorisez des fois à être? Et là, tout de suite, elles sentent qu'il y a quelque chose qui se joue. Si on n'est pas dans l'être, c'est peut-être qu'on est coupé de nos émotions. Est-ce que ça fait sens, déjà, cette petite distinction entre le faire et l'être et la conscience qu'on met sur qu'est-ce que je vis? Est-ce que je suis capable de le montrer aux gens qui sont autour de moi maintenant? Ou est-ce que ce que je vis n'est pas le bon moment, mais tout à l'heure, il faudra que je le processe parce que c'est en moi, c'est dans mon vécu, c'est à côté de ce qui se joue dans mon cœur, quoi.
Très bonne question, surtout n'hésitez pas à interagir, on est là pour échanger avec vous, donc si vous avez des questions plus spécifiques par rapport à Séverine, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, elle ne voit pas, mais moi je les vois. C'est vrai que moi, quand tu me parles de faire et être, je fais très bien la distinction, mais c'est vrai que si je me reprojette peut-être 10 ans avant, je me dirais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte, je suis, enfin, alors j'étais pas du tout moi, hein, mais je suis, et puis je fais, donc non, je suis pas coupée de mes émotions. Je sais pas si tu as peut-être des exemples qui pourraient parler à des personnes.
Par exemple, quand on est en société, parce que c'est là où ça se voit le plus, il y a une manière de se comporter qui nous paraît acceptable. Il y a une manière qui nous paraît peut-être plus fluide, plus facile pour les autres. Et c'est comme si on se disait, si j'ai ce comportement-là, je serai mieux acceptée. Donc, c'est le sentiment d'appartenance, c'est le sentiment aussi d'appartenir à un groupe au sens social, code. Alors que si d'un coup, je montre ma joie, je saute, je ris très fort, je me dis « Ah ouais, c'est génial !» Je vais dénoter en fait, je vais sortir de la norme. Et se couper de son émotion, c'est se dire « Mais en fait, je suis très contente, mais je crois que ça va déranger les normes et les codes actuels. Je crois que l'autre ne sera pas capable de trouver ça normal, ma réaction. » Donc, quelque part, je suis en train de juger la façon d'exprimer mon émotion. Et plutôt que de me dire « mais j'ai le droit d'exprimer comme je veux, ma colère, ma tristesse, ma peur, je fais comme je veux », je me juge tout de suite en me disant « non, tu ne dois pas le faire ». Et hop, je mets un mouchoir sur mon émotion pour être mieux acceptée, pour ne pas déranger, parce que déranger, c'est peut-être se faire rejeter du groupe, c'est peut-être se faire exclure du groupe. Donc, pensez à la dernière fois que vous étiez très triste, bah vous n'êtes peut-être pas autorisé à pleurer, tout simplement. Parce que vous vous êtes dit, si je pleure, bah l'autre en face va croire que je suis faible, va croire que je ne suis pas compétent, va se dire des choses. Et en fait, on a peur de décevoir, on a peur du regard des autres, ce qui est humain, puisqu'on a tous un besoin de sécurité physique et de sécurité affective. Et du coup, s'empêcher de pleurer devant une collègue de travail, s'empêcher de crier sur la place du supermarché où quelqu'un vient de nous faire une queue de poisson et qu'on a eu peur, c'est se dire, est-ce que je suis légitime à avoir cette émotion au moment où je l'ai? Et ça pose question, parce qu'on se juge nous-mêmes de ne pas avoir le droit de le ressentir et on se juge nous-mêmes de ne pas être dans le bon comportement pour l'exprimer. Ça veut dire qu'on est vraiment notre propre prison, hein. Oui. Personne ne nous a demandé de le faire, personne ne nous a demandé de nous taire ou de ne pas pleurer ou de ne pas sourire. C'est nous qui nous imposons ces choses-là. Et le jour où il y a un petit déclic, donc quel que soit le jour où vous avez eu le déclic ou vous allez avoir le déclic, il y a quelque chose qui crée de l'espace en se disant « mais toutes ces années que j'ai perdues, et peut-être que tu voudras témoigner à ce sujet, à vouloir préserver le monde extérieur de ce qui se passait dans moi, dans mon monde intérieur. » Parce que je crois que c'est un peu ce que tu as vécu aussi, toi.
Oui, en fait, c'est ça. Et j'irais même plus loin en disant que je pense que je m'autorisais pas à faire des vagues parce que c'est aussi une éducation finalement où il faut rester discret, faire attention, bien se tenir. J'ai une très bonne éducation. Donc, attention, tu vas te faire remarquer. Donc, je pense que Il y a tout ça à prendre en compte, comment nous on se juge, comment notre éducation, notre environnement aussi, on le perçoit, les valeurs qu'on nous a inculquées, où il faut faire attention et pas se montrer. Je pense qu'il faut aussi pouvoir se détacher de ça. Et par rapport à moi, mon cas, je pense que c'était encore plus difficile. Pas difficile, mais j'ai vécu pas mal d'événements où j'étais perdue. J'ai fait face à des décès. Quand j'étais jeune, j'ai perdu mon grand-père quand j'avais 10 ans et j'aimais beaucoup mon grand-père. Puis ensuite, mon père quand j'avais 18 ans. À cette époque-là, on ne parlait pas de deuil, on n'avait aucun lien avec ça. Voilà, il y avait quelqu'un décédé, il fallait faire avec, la vie continue. Il y a la tristesse qu'on ne monte pas forcément. Et je pense que par rapport à se couper de ces émotions, c'est aussi, je me dis, est-ce que ce n'est pas par rapport à ça aussi, j'avais plus envie de souffrir. Donc, je pensais que si je devenais indifférente, eh bien, hop, ça allait régler tous mes problèmes. Et d'ailleurs, ça me fait penser, parfois, on m'a dit, hein, mais on ne sait pas ce que tu penses, ou alors, tu es très, très indifférente à telle situation, ça ne te fait rien. Ou même, on pouvait croire que c'était que j'étais hautaine, en fait, finalement. Mm. Comment on fait le distinguo entre être insensible en te disant on va plus souffrir par rapport à des traumatismes ou des répétitions de scènes, scénarios un peu tristes dans nos vies, avec ce qu'on nous a inculqué comme valeur, faut pas faire de vagues, faut faire attention, faut bien se tenir, etc.
Tu as touché le point sensible qui est on a reçu un bagage émotionnel et culturel de nos parents, que ce soit les parents d'origine ou non, et on a cru que c'était une norme en soi. Donc, si on a été en contact avec d'autres familles qui elles-mêmes exprimaient leurs émotions, on a pu faire la part des choses un peu plus vite en se disant « Ah, il y a des familles qui expriment et il y a des familles qui n'expriment pas. » Mais si on a eu autour de nous que des gens qui étaient assez neutres, assez inexpressifs, assez impassibles, eh ben, on a pu croire que c'était comme ça qu'il fallait on gère nos émotions. Donc, on s'est imprégné avec les neurones miroirs de ce qui se faisait autour de nous. Si, dans notre parcours, on a pu croiser quelqu'un qui assumait ses émotions, ça a pu mettre une graine. Mais est-ce qu'on a été capable de le voir qu'autour de nous, il y avait quelqu'un qui arrivait à exprimer ses émotions? Si, à ce moment-là, où on a observé quelqu'un qui, lui, exprimait ses émotions et que les autres l'ont critiqué, on s'est dit « Ouh là là, je vais rester dans mon coin parce que je vois que quand on exprime ses émotions, ça peut être dangereux. » Finalement, la notion d'insécurité, elle revient à chaque fois qu'on se dit « si quand j'exprime trop d'émotions, je risque d'être critiqué, moqué, rejeté, abandonné ou mis à l'écart, le distinguo, il est vite fait, je ne peux pas exprimer mes émotions. Exprimer mes émotions est un danger. » Donc, si après, on met ça avec le besoin d'unité et de singularité et de créer sa propre place, là, ça peut se compliquer parce qu'on veut à la fois exister pour ce qu'on est. Mais se couper de ses émotions, bah, c'est s'empêcher d'exister pour qui on est, puisqu'on se travestit et on se reste dans une platitude, dans une norme, dans un flou, on se fond dans la masse. Donc, il arrive un jour, je crois, où on se dit, il y en a marre d'être comme tout le monde, il y en a marre de faire plaisir aux autres, j'ai envie d'être qui je suis. On en revient à faire ou être. Ça veut dire que le jour où je me dis « je me suis écrasée, je me suis aplatie, j'ai assumé que les autres essayaient d'avoir du pouvoir sur moi », on ne l'a pas abordé encore, mais il y a aussi cette notion de pouvoir, parce que quand on se coupe de nos émotions, bah, c'est les autres qui nous envahissent avec les leurs. Et si on veut reprendre un peu de pouvoir et de puissance, on en vient à se dire « bon, bah, pour assumer, pour grandir, pour avoir du pouvoir et de la puissance, il faut quand même que je sache qui je suis et ce que je veux ». Et pour savoir ce que je veux, il faut savoir ce que je ressens. Parce que quand je suis triste, si je suis effondrée à l'intérieur et que j'affiche un sourire sur mon visage, je me mens. Et si je me mens, je ne peux pas être puissant à la fois. Donc, c'est cette sorte de dissonance qu'on se crée tout seul quand on se coupe de nos émotions, à ne pas pouvoir à la fois assumer qui on est, puisqu'on se cache une part de nous-mêmes. Est-ce que ça fait sens comment je le présente aujourd'hui?
Oui, ça me fait de plus en plus sens. Est-ce que ça vous fait sens, ceux qui sont là? Merci d'être là, de nous écouter. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Vous, est-ce que vous situez plus, où est-ce que vous en êtes dans vos émotions aujourd'hui? Est-ce que ça fait sens ce que Séverine vous dit? Est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas si vous avez des questions, même en replay, maintenant ou en replay. Séverine, je pense qu'elle regardera les questions qu'il y a eues et vous répondra avec grand plaisir. Moi, ça me fait sens. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que je me suis peut-être dit, je pense que j'ai aussi beaucoup écouté autour de moi à un moment donné, quand j'ai eu peut-être ce déclic, qu'est-ce qui se passe. Et c'est pour ça que ça m'est revenu. Beaucoup de gens qui me disaient, tu fais insensible, on dirait que ça ne t'impacte pas, comment tu fais? Pour eux, c'était bien, parce que j'étais comme jamais triste. Mais finalement.
C'est confortable.
Voilà, c'était confortable, mais je me suis dit, est-ce que je suis pas vraiment triste? Est-ce que j'ai pas oublié de faire des deuils, comme le deuil de mon père? Bon, après, plus tard, j'apprendrai le deuil de ma mère biologique, ça, je le savais pas. Et quand on se dit ça, dit, ok, mais je me reconnecte avec ces émotions, ben, en fait, je vais souffrir, je vais être vraiment triste. J'ai pas spécialement envie. Comment on fait pour se reconnecter à ces émotions sans trop souffrir? Laetitia nous dit, ah, bonjour Laetitia. Oui, ça fait sens, c'est très juste, merci. Merci Laetitia pour ton commentaire. Donc, du coup,
alors, on en arrive à notre émotion d'impuissance. Et je trouve que l'émotion d'impuissance, elle se retrouve dans beaucoup de domaines aussi de notre vie, et particulièrement les mamans qui se sentent impuissantes à prendre en charge les émotions de leur enfant. Mais nous, juste avec nos propres émotions, si on ne nous a pas donné des outils concrets, on se sent au moment de vouloir prendre notre place, découvrir, s'affirmer, mais on se dit, mais je ne sais pas comment on fait. Je n'ai aucune piste pour savoir comment faire puisqu'on ne me l'a pas transmis par la voie scolaire, par la voie de la culture, par la voie de notre famille plus ou moins large, hein, parce que ça pourrait être aussi notre meilleure amie, ça pourrait être une marraine. Mais en réalité, si on n'a aucune piste pour savoir comment on accueille la tristesse, même à l'heure actuelle, là, en 2022, personne n'accueille la tristesse de la même façon. Il peut y avoir des gens qui soutiennent, qui frottent dans le dos. Il peut y avoir des gens qui disent « Oh, c'est bon, arrête de pleurer ». Même là, entre adultes, il y a des gens qui ne savent pas accueillir l'émotion de quelqu'un d'autre. Et je parle souvent de contamination émotionnelle parce que les gens qui ne sont pas à l'aise avec leurs propres émotions n'arrivent pas à accueillir celles de quelqu'un d'autre. Ce qui fait que quand vous êtes coupé de vos émotions, vous, et que vous voyez qu'autour de vous, ce sont des gens qui eux-mêmes ne savent pas gérer leurs émotions, ils ne vont pas pouvoir entendre les vôtres. Donc, ce ne sont pas les bonnes personnes vers qui se tourner. Il faut se tourner vers quelqu'un qui a fait la paix avec les siennes et qui sera capable non pas de réceptionner les vôtres, mais juste de créer un miroir d'écoute. Ce qu'on a besoin pour traverser les émotions, c'est d'entendre qu'elles sont légitimes et toutes les émotions que vous avez aujourd'hui et pour les 100 prochaines années sont légitimes. Vous avez le droit de ressentir exactement ce que vous ressentez. Parce que chacune de vos émotions, moi je les appelle des flammes d'émotions, elles sont nées parce qu'il y avait un ou plusieurs besoins qui n'allaient pas chez vous. Et ça, ce n'est pas un jugement, c'est juste à ce moment-là, vous avez besoin d'accomplissement, vous aviez besoin de sécurité, vous aviez besoin d'empathie, vous aviez besoin de repos. Si vous n'aviez pas ni empathie, ni repos, ni accomplissement, ni sécurité, eh ben, une émotion s'est déclenchée pour vous. Peut-être une émotion d'impuissance, de doute, de frustration ou de tristesse. La personne en face de vous, qui vous voit un petit peu en vrac, ne sachant pas comment accueillir votre émotion, va peut-être la minimiser. Souvent, on minimise les émotions. Pareil pour les enfants. Ah, c'est bon, arrête de pleurer, c'est pas grave. Ou alors, la personne en face de vous va peut-être essayer de vous dire comment faire. Et on ne veut pas savoir comment faire. On veut juste pouvoir déjà la ressentir. Et la première étape, c'est qu'est-ce que je ressens? Mettre un nom sur ce que je ressens. Est-ce que c'est de la fierté? Est-ce que c'est du désespoir? Est-ce que c'est juste une angoisse? Est-ce que c'est un agacement ou c'est de la rage? Il y a des nuances sur la colère qu'on ne connaît pas bien. Et ça aussi, c'est la communication non-violente qui m'a beaucoup aidée parce que dans les livres, il y a des listes d'émotions. Et on est assez pauvre hein, dans ce vocabulaire-là. C'est souvent fâché, content. Même les enfants, au début, on leur apprend « t'es content, t'es pas content ». C'est un peu pauvre hein, comme vocabulaire. On peut aller plus loin. Et quand on voit la gamme de mots et de lexique qu'il y a autour de chacune des émotions, ben, ça permet d'affiner. Parce que entre agacé, frustré, enragé, vous voyez que c'est pas la même intensité. Et quand on touche le bon mot, ce qu'on fait en binôme empathie, c'est quand on touche le bon mot, eh ben, la personne, elle se détend. Elle se dit « ah, c'est ça que je ressens ». Et quand elle a trouvé comment elle se sent, après, on peut savoir pourquoi c'est arrivé, quel besoin était en jeu, quel besoin clignotait en fait sur son arc-en-ciel de besoins. Donc ça, c'est des outils que j'utilise moi en accompagnement, mais pour représenter ça, tous vos besoins sont là en permanence, sauf qu'on ne les scanne pas en continu. Donc des fois, on oublie de se reposer, de s'hydrater, de se mettre en sécurité, on est dans un brouhaha constant et au bout d'un moment, on craque parce qu'il y a un des besoins qui vient nous alerter physiquement. Et si on est coupé de nos émotions, la plupart du temps, je ne vais pas généraliser, mais la plupart du temps, on est coupé aussi de nos ressentis corporels. Ça veut dire qu'on peut être blessé, on n'est plus avec des capteurs sensoriels très réactifs. On se dit, c'est pas grave, on continue, on fait, on tient. Et tant qu'on fait et qu'on tient et qu'on est tenu par cette productivité, efficacité, les gens, c'est souvent dans le travail qu'ils s'en rendent compte en premier. C'est, ils vont faire, et à un moment, ils vont se rendre compte que quoi qu'ils fassent, ce sera jamais bien. Quoi qu'ils fassent, ce sera jamais assez. Et d'un coup, le corps dit, ah, je suis contente que tu t'en rendes compte. Parce que le corps pourrait arrêter de dormir et de manger. Peut-être ça vous est arrivé de vouloir finir un dossier et de faire une nuit blanche ou d'arrêter de manger pour finir un dossier. Oui, parce que le mental peut tenir à court terme. Mais après, il a besoin de récupération. Il a besoin de recharger ses batteries comme un téléphone, comme un élastique. Si vous tirez trop sur l'élastique, ça va péter, quoi. Ça va péter.
Donc, un accompagnement pour se libérer, en fait. Tu dirais quoi? De se libérer de ses émotions ou les accueillir d'abord? Trouver quelqu'un qui sache accueillir, qui valide en fait ce que l'on ressent. Ça veut dire que si on va voir une personne et qui nous dit « Non, mais c'est bon, t'as pas besoin d'être triste, il y a pire dans le monde, blablabla. » Dans ce cas, faire demi-tour si je comprends bien. Et puis ensuite, aller plus loin, pouvoir mettre des mots, notamment.
On peut sans doute le faire après tout seul, mais dans un premier temps, la personne, un peu comme toute alliance thérapeutique, la personne en face de vous va vous créer un espace sécurisé pour que vous puissiez parler de ce qui se vit en vous. Donc, sans jugement, en accueil, en écoute active, en écoute empathique. Ça, c'est des termes qui sont très consacrés maintenant, qui ont été vraiment détaillés dans plusieurs livres. Mais le fait est que quand vous avez la personne en face qui va juste entendre ce que vous vivez, elle va vous permettre de refaire le scénario depuis le début, de refaire depuis le premier déclencheur, qu'est-ce qui a été réveillé? Ah, une sensation d'insécurité. Pourquoi je me sens insécure? Parce que cette phrase, je l'ai déjà entendue dans un autre contexte et ça me rappelle un mauvais souvenir. Ce mauvais souvenir, c'était quoi? Ah, mais ce jour-là, je me suis sentie exclue. Exclue par rapport à quoi? Ah, c'est mon besoin d'appartenance. Et en fait, on fait une enquête scientifique pour chacune de nos émotions. Et au début, il y a une résistance du cerveau. Il y a une résistance en se disant, ah, c'est bon, tu ne vas pas faire ça pour chaque émotion. En réalité, si. Et c'est pour ça que quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Et si aujourd'hui, vous n'êtes pas prêt, il n'y a pas de souci. Mais le jour où on commence à se dire, chacune des émotions que je vis dans ma journée, je peux aller comme un petit détective, chercher quel est le déclencheur, chercher comment je me suis sentie, chercher sur quel besoin ça venait taper et chercher, si je réagis automatiquement avec un mécanisme, je vais faire ça. Et s'il y avait d'autres façons d'agir? Et ça, c'est l'étape d'après avec le thérapeute, avec le coach, avec le consultant. C'est de vous dire, pour l'instant, j'ai toujours fait comme ça et il y a d'autres manières de faire. Ça veut dire que quand vous avez été en colère et que vous avez toujours dit « Non, je ne vais rien montrer, je vais garder ma colère pour moi », oui, on peut. C'est une des options possibles. Malheureusement, ça pourrait développer des choses en nous. Vous connaissez les mots qui deviennent des mots MAUX. Ou alors, on pourrait se dire « Je vais juste commencer par dire non ». Déjà, pour certains, dire non, c'est horrible. Parce que dire non, c'est s'exposer à un refus, c'est s'exposer à décevoir, c'est s'exposer à avoir une place différente dans le groupe, divergente. Et en général, les gens qui commencent à assumer leurs émotions et qui commencent à les verbaliser font bouger les gens autour d'eux, en bien et en mal. Ça veut dire qu'il y a des gens autour de vous qui vont vous trouver formidable d'avoir osé vous affirmer et puis d'autres autour de vous qui vont dire « Oh, on préférait avant, on préférait quand tu étais coupé, hein ». T'étais moins pénible. Et là, ça va nous demander beaucoup de force de continuer, en fait. Parce que si on se dit, je le fais pour moi, je le fais pour me connaître, je le fais pour vivre ma vie et pour arrêter de faire plaisir à la vie des autres, à la vie de mon patron, de mon mec, de mon enfant, on reprend de l'énergie en se disant, oui, je connais la résistance de mon cerveau à faire quelque chose de nouveau, parce que pour lui, ce n'est pas confortable de faire quelque chose de nouveau. Et scanner nos flammes, ce n'est pas confortable au début, il n'a pas envie de se poser autant de questions. Mais avec la pratique, vous allez voir que c'est souvent les mêmes émotions qui reviennent. C'est souvent la frustration, c'est souvent la tristesse. On est déçu par les actions des autres, on est déçu par les phrases des autres. On se dit quand même, moi je fais des efforts et eux non. Et en fait, toutes ces pensées-là, il y a un autre outil qui s'appelle le crash test. Ces pensées-là, elles en disent pas mal de nous aussi. Parce qu'on a tellement pris l'habitude à se couper qu'on ne remet plus en question l'action de l'autre, on se remet toujours nous en question. Donc on se coupe nous en se disant, ouais, mais si je lui dis non, si je lui dis que je ne le fais pas, elle va être déçue. Eh bien oui, mais c'est sa responsabilité émotionnelle. Et je pense que là, dans le sommet, vous allez sûrement en parler aussi, c'est qu'à un moment donné, Quand on est coupé de nos émotions, c'est parce qu'autour de nous, il y a pu y avoir des gens qui nous contaminaient avec les leurs. Donc, il serait intéressant de voir si vous, vous n'avez pas pu les exprimer plus tôt, certes, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vous faisaient porter leurs propres émotions à vous et vous rendaient responsables de leurs propres frustrations, colères, genre « Oh là là, avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu me dois bien ça, tu ne m'appelles plus ». Et en fait, ça, c'est de la culpabilisation émotionnelle. C'est horrible. Mais la génération d'avant, elle le faisait beaucoup. Et s'il y a des gens là qui ont plus de 60 ans qui nous écoutent, ça doit vous parler tellement parce que c'est les phrases qu'on entendait. Les phrases du « tu me dois bien ça ». Non, les enfants ne doivent rien à leurs parents. Les enfants ont leur vie à créer. Et les parents, souvent, se déchargent émotionnellement sur les enfants. Donc, si c'est des choses qu'on a entendues pendant 20, 30 ans, c'est super dur d'en sortir. Sortir de cette coupure d'émotion, assumer notre responsabilité émotionnelle, c'est admettre qu'en face, la génération qui n'est pas prête, qui n'est pas mûre émotionnellement, va subir notre changement. Donc, quelque part, on s'annonce comme étant un élément perturbateur. Du coup, certains vont rester coupés de leurs émotions toute leur vie parce que ce sera malheureusement, et je dis malheureusement parce qu'à un moment, le corps va peut-être trop réagir. Ça veut dire que le corps va déclencher des choses pires. Mais pour un confort temporaire, il se dit « Non, je veux continuer à ne pas déranger mes parents, mes enfants, mes amis, mon conjoint. » Donc, se couper de ses émotions, c'est une fausse protection pour éviter de déranger ce qui se passe autour de nous. Et sortir de ça, c'est prendre une responsabilité émotionnelle. Oui, ça va être difficile. Oui, il va y avoir une résistance de notre cerveau. Et oui, il va y avoir une résistance des gens autour de nous. Autant vous dire que ça ne va pas se faire en 2 mois, quoi. On peut démarrer un travail en 2 mois. Ça veut dire reprendre le sens sur ça, se dire qui je vais être quand je serai plus coupée de mes émotions. Eh bien, je vais être mon identité, ma rayure d'identité, mes projets, mes valeurs, mes choix, mes goûts. Je vais arrêter de subir ce que la société me dit, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, ce serait mieux que... Parce que sinon, on peut suivre toutes les injonctions de tout le monde autour de nous, toute notre vie, hein, et se couper et rester coupé. C'est un choix. Il y en a d'autres. Et ce que je voudrais préciser aussi, c'est que ça n'a pas besoin d'être dans la violence. Ça veut dire que du jour au lendemain, on ne va pas passer de ne rien dire et s'écraser à tout vouloir décider pour l'autre. Ça veut dire que ce qui va être important quand on va commencer à exprimer ce qu'on ressent, c'est de dire à l'autre, voilà comment je me sens. Et ne pas l'accuser de me sentir comme ça, parce que sinon, ce serait rentrer dans le jeu de la contamination émotionnelle sur l'autre. Et ça, c'est difficile parce que quand on comprend comment on fonctionne, ben, on a envie de l'expliquer à tout le monde. On a envie de faire des conférences dessus et on a envie de dire « Oui, mais c'est à cause de toi que je me sens comme ça. » Non, ce n'est pas à cause de toi qu'on se sent comme ça. Donc, on coupe bien les déclencheurs. Ce n'est jamais à cause des autres qu'on se sent comme ça. Ça, c'est un parcours intéressant à faire aussi, de couper le fait qu'on se croit dans cette émotion-là à cause de quelqu'un. Ce n'est jamais à cause de quelqu'un d'autre. C'est à cause d'un de nos besoins à nous qu'on n'avait pas identifié et qu'on n'avait pas nourri. Mais on peut tout de suite se dire « Quand je me sens triste, apeuré, effrayé, en colère ou joyeux, ce n'est pas à cause ou grâce à l'autre. C'est uniquement par les actions que j'ai effectuées et par les prises de conscience que je mets en place petit à petit, pas à pas, et ça n'a pas besoin d'être réussi en 2 mois. Donc, si l'envie vous vient là, pendant ce live ou ce replay, de vous lancer, oui, il va y avoir des rechutes, mais comme l'enfant qui apprend à marcher. C'est normal, en fait. Arrête-moi, hein, sinon je continue pendant des heures, moi.
Est-ce que ça vous parle? Moi, ça me parle beaucoup, tout ce que tu viens de nous dire, les injonctions des autres, prendre les émotions des autres. Je ne sais pas, Laetitia, si tu es toujours là. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à poser des questions. On a encore un petit peu moins de 20 minutes. On est avec vous. Pour ceux qui auraient envie de commencer à faire ce cheminement, qui l'ont peut-être déjà entamé, mais ne savent plus où aller, tu parlais tout à l'heure de trouver des personnes, et je suis tout à fait en phase avec toi, qui ont déjà parcouru ce chemin. Mais c'est vrai que, sans vouloir dénigrer personne, c'est vrai qu'à l'heure où les coachs se multiplient, tout le monde a subi ou connu et veut coacher d'autres personnes, comment on reconnaît les personnes qui sont vraiment en paix avec leurs émotions?
Habituellement, je conseille aux gens de ne pas seulement lire en fait les écrits, que ça passe beaucoup les émotions par la voix. Toi et moi, on a un podcast, donc on sait très bien comment on réagit quand on écoute quelqu'un d'autre. Clubhouse, on s'est rencontrés par la voix aussi. Et je trouve que quand j'écoute certains coachs, ça sonne vrai. Et quand j'écoute d'autres coachs, ça ne sonne pas vrai. Et même si le travail des émotions, vous ne l'avez pas encore complètement abouti, je pense que vous avez une intuition sur la qualification de la personne pour vous. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas qualifiée pour quelqu'un d'autre, mais votre problématique à vous, votre projet de vous réconcilier avec vos émotions, eh ben avec ces 8 coachs-là, ça ne va pas matcher du tout parce que vous ne le sentez pas, parce que sa tête ne vous revient pas, parce que sa voix ne vous revient pas, que ses visuels, vous les trouvez trop gros, trop rouges, trop verts. Ça ne s'explique pas. Donc, on peut tout de suite déculpabiliser de ne pas être attiré par un spécialiste des émotions. Au contraire, le gars, il vient vers vous, il vous dit « je suis spécialiste des émotions, je vais… » Allez, en 3 mois, je te règle tout le problème, on dirait un mécanicien avec votre voiture et votre contrôle technique. Ben, peut-être que vous allez le sentir et peut-être pas du tout. Et à côté de ça, il y aura peut-être quelqu'un qui va arriver par hasard dans votre vie la semaine prochaine, qui va vous donner un flyer, vous ne l'avez jamais vu, jamais entendu. Vous allez commencer à regarder ce qu'elle vous fait sur les réseaux, peut-être qu'elle a une chaîne YouTube. Et puis, plus vous l'écoutez, plus vous dites « ça fait sens ». Je pense qu'il faut se guider vers ça. Qu'est-ce qui fait sens pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous donne confiance? Parce que les émotions, c'est quand même un domaine qui est sensible. Ça veut dire que si vous sentez que la personne, elle veut vous vendre un programme, si vous sentez que la personne, elle veut vous fidéliser sur 10 ans, façon psychothérapie à long terme, si la personne, ses témoignages sont un peu flous, on ne sait pas trop si c'est des vrais gens, voilà, fiez-vous quand même à votre instinct. Je pense qu'on peut être coupé de ses émotions, mais qu'on peut retrouver quand même une intuition vis-à-vis de la confiance qu'on veut accorder à un spécialiste. Et si ça se trouve, c'est quelqu'un qui est dans votre centre de santé gratuit dans votre ville. Ça peut aussi être ça, qui réoriente vers quelqu'un qu'elle connaît, de sa sœur. Faites confiance aussi au réseau, au bouche à oreille, et donnez-vous une séance pour essayer. Ne signez rien à l'avance, ne vous engagez pas sur un gros programme, testez, et si ça le fait pas, partez. Partez, c'est trop important, quelle que soit la personne que vous allez choisir, c'est trop important, si vous avez le moindre doute, vous partez. Bon, ça ne plaira pas aux coachs qui écouteront ce live, mais voilà quoi, il faut quand même être honnête. Ça pourrait très bien se passer avec Mademoiselle Y, et puis en fait, personne autour de vous n'aurait fait confiance à Mademoiselle Y, parce que pour eux, ce n'était pas le bon moment, ce n'était pas le bon phrasé. C'était pas la bonne voie, c'était pas les bons outils. Si les outils de la personne vous parlent pas, si elle vous donne une plaquette que vous aimez pas, voilà, ne vous forcez à rien. Parce que apprivoiser ses émotions, c'est quelque part se réconcilier avec ce qu'on aime. Et si dès les premiers pas, vous allez vers quelque chose que vous n'aimez pas, c'est assez symptomatique, c'est assez représentatif.
C'est très contre-intuitif, mais en même temps percutant. Heureusement, c'est vrai qu'on parle d'être coupé de ses émotions pour. Pour toutes les raisons que tu as expliquées, soit pour on pense qu'on va plus souffrir, soit parce que c'est pas approprié comme comportement, et en même temps de se dire de s'écouter soi, son instinct pour nous guider vers la personne justement qui nous permettra d'aller au loin, d'aller plus loin, de penser et d'être accompagné. C'est très contre-intuitif, mais heureusement, en fait, même en étant coupé de ses émotions, on peut suivre notre intuition, finalement, notre instinct pour choisir pas qu'un coach, hein, les personnes qui nous entourent finalement, qui sont dans notre quotidien. Donc, heureusement, on a ce mode-là quand même. Je vais juste regarder s'il y a des questions.
Il y a une citation, je ne sais plus de qui elle est, mais qui disait « Quand l'élève est prêt, le maître arrive ». Et j'aime beaucoup cette idée parce que j'ai l'impression quand il y a quelque chose qui se déclic en nous, la personne dont on avait besoin va traverser notre trajectoire. Peut-être qu'on ne sera pas assez prêt à la voir passer. Hein. Peut-être que ce ne sera pas le bon moment. Et pour te dire, moi, j'ai refusé d'aller faire du yoga pendant 10 ans parce que j'avais associé le mot yoga à « c'est un truc de vieux, c'est un truc de ma mère, c'est des gens, des retraités qui parlent toute la journée. » Et tu vois, j'avais bugué sur ce mot yoga. Et puis, au moment où je commençais à avoir des doutes sur mon métier, il y a 2 ans, je passe à la fête des associations pour parler de salsa et de zumba de mon passé. Et puis, je passe devant ce stand de yoga et il y a quelque chose qui se fait. Il y a quelque chose qui me dit « et si tu essayais quand même ?» Donc, ça veut dire que la maturité, elle va se créer. Peut-être que ce ne sera pas ce mois-ci, peut-être que ce sera dans 6 mois. Mais le jour où vous allez être prêt, je crois que vous allez croiser un flyer, un podcast, une émission, un live, une room qui va vous donner envie d'en savoir plus. Et d'en savoir plus vers quelqu'un d'autre, et d'en savoir plus vers quelqu'un d'autre. Et au bout du chemin, il y aura sûrement l'expert qui vous conviendra à vous. Même si au début, vous n'allez pas vous accorder une pleine confiance en disant « Non, non, c'est trop loin de moi, je n'en veux pas. C'est trop dangereux, c'est trop insécurisant. » Mais peut-être que ce n'est pas cette personne-là. Peut-être que c'est celle qui va arriver après. Voilà, s'écouter, même quand on est coupé de ses émotions, reste encore possible. Bon, après, il faut batailler avec le petit hamster qui nous envoie des pensées toute la journée et lui dire laisse-moi réfléchir, arrête de critiquer tout ce que je fais.
Oui, ça, c'est encore une autre histoire.
C'est encore une autre histoire.
Il n'y a pas de questions dans le chat. Du coup, j'ai envie de rebondir sur un point que tu mentionnais tout à l'heure, le fait que on n'accuse pas les autres de nos émotions, finalement, que c'est de leur faute. Et là, je vais, je pense, faire beaucoup de gens pas contents qui vont pas, comme les coachs, vont pas aimer cette vidéo ou cette question. Parce que quand je reviens, par exemple, au monde des adoptés, il y a beaucoup de comptes qui se sont créés, Instagram, Facebook, et c'est très bien parce qu'on libère la parole. Ce que je reproche un peu, c'est que justement, on est très dans cette colère, mais c'est la faute de mes parents adoptifs, c'est la faute du système, c'est la faute de l'État. Donc là, je pense que j'ai perdu tout le monde déjà. Mais je trouve que c'est important ce que tu dis parce qu'on a l'impression qu'ils sont en colère et c'est de la faute des autres. Comment leur faire comprendre ou leur faire accepter sans, voilà, enfin, j'ai pas vocation à convaincre les gens, mais leur essayer de faire switcher ce mindset en disant, mais reprends tes émotions à toi, ta colère. Peut-être que tu as eu des situations très traumatisantes ou même sans être traumatisantes, mais comment on se réapproprie ces émotions? Comment on fait comprendre ça aux gens pour qu'ils puissent sortir de leur colère finalement?
Alors, quand on le travaille en coaching, en général, le professionnel, il va vous emmener vers le statut de victime. Ça veut dire que pendant un moment, on a besoin de ce statut de victime. On doit se sentir victime et pendant... Ça peut durer 1 an, 10 ans, suivant la personne. Il faut qu'elle se sente d'abord reconnue comme victime, donc reconnue comme victime de cette adoption, de ce vol d'enfant, de cette situation professionnelle, pour après se dire, OK, ben maintenant que j'ai bien été reconnue comme victime, qu'est-ce que je fais? Parce que je peux très bien rester et me lamenter pendant des années en disant, c'est la faute de mon patron, c'est la faute de ma mère, c'est la faute du pays, c'est la faute du régime en place et du président. Je peux. Et il y a des gens qui ne sortiront jamais de la plainte. Donc, c'est leur droit. Par contre, vous, quand vous entendez des gens se plaindre H24 et exprimer leur colère H24, puisque l'indignation, la colère, pour moi, ça vient de ce statut de victime. On reste victime et on se dit, ah ben, on n'y arrive pas. On n'a pas les moyens. On ne peut pas agir. Parce que essayer et voir que ça pourrait avoir des effets, ça veut dire nous sortir de ce statut de victime qui est malheureusement confortable. Certaines personnes vont rester victimes parce qu'elles vont continuer à se faire plaindre, à se faire caresser dans le dos, et ça reste un choix, ce n'est pas un jugement. Plusieurs personnes, quel que soit le domaine, vont rester victimes toute leur vie et continuer à se plaindre. Et un jour, elles vont pouvoir éventuellement se dire ben, « j'ai envie de faire changer la situation ». Et pour la faire changer, le switch dont tu parles, c'est de se responsabiliser en disant « oui, je l'ai vécu, oui, j'en ai souffert, je vais prendre ma souffrance, je vais bien tout tasser et je vais monter dessus pour aller voir ce qu'il y a derrière le mur. Sinon, je peux rester avec ma souffrance derrière le mur hein, et je peux continuer à ruminer. Il y a des tas de gens sur la planète qui continuent à ruminer, à dire « la guerre, c'est pas bien, la guerre, c'est pas bien ». Oui, la guerre, c'est pas bien. Mais au quotidien, qu'est-ce qu'on peut faire comme petites actions pour reprendre un tout petit peu de responsabilité? Ça peut être aider une famille, ça peut être créer un sommet virtuel. Clairement, ça, c'est reprendre une part de responsabilité, non pas pour nier la souffrance, j'insiste bien, ça ne va jamais effacer ce qu'on a vécu. Ça veut dire que la colère que j'ai contre l'éducation nationale, elle est encore là. Mais je l'ai transformée pour en sortir et pour aider les familles autrement. La colère que j'ai contre telle ou telle association ou tel homme que j'ai rencontré, elle est encore là. Mais je l'ai transformée pour créer une belle relation de couple maintenant, etc. En fait, on peut transformer notre tristesse, notre colère pour agir autrement. Alors qu'au début, on croit que tristesse, colère égale rumination, subir, victime, bouder. C'est une option. Mais sur votre éventail de stratégies, vous avez d'autres options possibles. Vous pouvez même alterner les phases, et ça, je pense qu'on peut aussi le dire. Ça veut dire qu'il peut y avoir des mois où vous avez le droit de vous remettre en victime. Et tout à fait. On demande à personne d'être super fort H24. Donc, ça veut dire que si vous retombez dans un trou, ben, tout le monde retombe dans des trous. Même le plus grand des professionnels a des moments de trous. Donc, ne nous disons pas non plus qu'on va gérer nos émotions. Moi, déjà, j'ai une coach dans mon réseau professionnel à chaque fois qui a dit « je suis spécialisée en gestion des émotions, j'ai envie de l'étrangler ». Parce que gestion des émotions, ce n'est pas possible. Mais voilà, moi, ça me met en colère parce qu'elle continue à le dire, alors que ça fait 4 fois que je lui explique qu'on ne peut pas gérer une émotion et qu'elle est coach spécialisée en gestion des émotions. Je referme la parenthèse. Mais on a tous nos déclencheurs, en fait. On a tous des phrases qui vont nous mettre en vrac. Un professionnel qui va vous sortir cette phrase-là, alors que cette phrase-là, c'est un déclencheur pour vous parce que votre ex-mari la disait, eh ben, ce professionnel, d'un coup, vous allez le regarder autrement parce qu'il a utilisé un déclencheur. Donc, il faut juste être conscient qu'on se promène avec nos valises, on se promène avec nos déclencheurs, on se promène avec nos besoins qui clignotent et on se promène avec nos braises. Quand j'explique la cheminée des émotions, j'explique qu'au quotidien, depuis ce matin, depuis que vous êtes levé, vous avez eu plein de flammes d'émotions, désagréables, des moins agréables, de la joie, de la fierté, de l'agacement, voilà, votre fille qui ne fait pas ce que vous lui avez demandé, tout ça, c'est agaçant. Mais au fur et à mesure, ces émotions, elles vont s'apaiser, elles vont retomber. Mais restera au fond de votre cheminée tout un tas de braises. C'est les choses qu'on n'a toujours pas soldées. L'adoption peut être une braise. Cette braise, elle peut rester là toute votre vie ou vous pouvez choisir d'aller l'explorer. Pareil avec un thérapeute spécialisé dans le deuil, avec les étapes du deuil, avec le fait de requalifier votre passé, de le dépolariser comme quoi je suis victime. Et en fait, ça revient à cette responsabilisation. On peut se dire, j'ai 8 braises dans ma cheminée des émotions, mais je ne veux pas aller les voir. C'est un choix. Mais dans ce cas-là, on arrête de râler et de faire porter aux autres la responsabilité de notre malheur. On se dit, je veux être malheureux, je ne veux pas travailler mes braises, c'est trop dur pour moi, j'assume. Et libre à l'autre de nous dire, t'es chiante, t'es chiante, t'es pénible. Donc, si on reprend la responsabilité de nos émotions, de nos braises, de nos malheurs, de nos besoins, on ne la fait plus porter aux autres et je trouve que les relations sont beaucoup plus légères. Et observez autour de vous à quel point certaines personnes essayent de vous faire porter leurs émotions à elles. Et de la même façon, parfois nous, on essaye de faire porter nos émotions aux autres encore. Parce que c'est dur de ne pas le faire. Parce qu'en fait, on mélange un peu besoin d'empathie et besoin d'écoute avec « vas-y, je te balance mon émotion et tu te démerdes avec ». La façon d'exprimer joue beaucoup, la façon de communiquer joue beaucoup, de reprendre la responsabilité de « je me sens comme ça quand j'ai vu que tu n'avais pas fait les courses que je t'avais demandé de faire. Est-ce que tu serais d'accord pour aller chercher les 2 choses que je t'avais demandé d'acheter ?» Voilà pourquoi la communication non violente, elle peut être à l'origine de votre transformation parce qu'elle va vous permettre de mieux connaître vos besoins et vos émotions, mais en plus, elle vous permet d'éviter de faire des conférences scientifiques aux gens autour de vous. Elle vous permet de comprendre comment travailler avec les gens en bonne intelligence sans leur balancer toutes vos émotions désagréables. Quand c'est les émotions agréables, ça va, on peut les balancer plus facilement, mais de reprocher à notre conjoint notre malheur, beaucoup de couples en arrivent là et le thérapeute, des fois, il galère hein, parce que c'est toujours la faute de l'autre. Non, mais c'est lui. Non, mais c'est lui. Non, c'est pas lui. C'est une façon que vous avez de relationner avec cette personne-là. Donc, de la même façon que certains rejettent vos émotions, certains rejettent leurs émotions sur vous, ben, essayez de voir, juste la semaine qui vient, est-ce qu'à un moment, vous, des fois, vous balancez votre émotion sur quelqu'un ? Et on le fait encore, hein. C'est humain.
Oui, c'est humain, je pense que ça arrive tous les jours et ça me fait penser à moi des fois avec mon conjoint, c'est marrant parce que du coup, c'est vrai que je suis super sereine, apaisée, j'ai fait vraiment la paix avec mon histoire, je peux en parler comme ça sans souci, mais il m'arrive de m'énerver des fois ou de voir des actions dans la rue que j'apprécie pas ou une remarque à la radio ou dans un podcast ou autre un peu peut-être raciste ou autre et qui va m'agacer ou du coup je suis en colère. Il me dit mais pourquoi tu es en colère, tu n'as pas le droit, soi-disant tu es apaisée. Je me dis mais en fait c'est pas parce que tu as trouvé la paix vraiment intérieure que tu n'as pas le droit d'avoir des hauts et des bas. Du coup c'est vraiment important ce que tu dis, on a tous des hauts et des bas, le plus important voilà c'est d'essayer de remonter, mais on a le droit d'être en colère pour un petit rien, le tout c'est vraiment d'aller au-dessus. Donc j'aime beaucoup ce point-là, on peut être en paix, on peut être serein et on peut aussi ne pas vouloir accepter voilà être contre la guerre ou d'être révolté par des actes violents ou pas.
Oui, tant que ça cache pas le reste, tant que c'est pas un mouchoir qui cache le reste. Et j'avais une formatrice qui disait de toute façon si tu as aucune émotion forte, c'est simple hein, c'est que tu es morte. Le fait d'avoir des émotions, vous aurez beau avoir 30 outils pour gérer vos émotions, ça ne va pas les empêcher. Ça va juste vous permettre de gagner du temps et de l'efficacité pour les résoudre au moment où vous en avez besoin. Parce qu'il y a des moments où on n'est pas gêné par nos émotions. Quand on est seul chez nous, on n'est pas gêné par nos émotions. La plupart du temps, on est gêné par nos émotions quand on est en public, quand on a des impératifs, quand il y a un timing à tenir, quand notre mère nous crie dessus. Là, on est gêné par nos émotions parce qu'on sent qu'on est à deux doigts d'exploser sur elles. Mais généralement, il y a des moments où notre émotion forte, ben, on peut la regarder en face. Il y a d'autres moments, c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Et c'est dans ces moments-là où on peut ouvrir sa trousse à outils et se dire, OK, je commence par quoi? Je commence par changer de comportement. Donc, à la fin du tunnel, parmi l'éventail de stratégies que j'ai, je peux crier, m'enfuir, me taire, sourire. Il y a plein d'options possibles. Donc, je peux commencer par quel est le comportement que je vais adopter face à cette émotion. Ou alors, je peux aller de l'autre côté et essayer de scanner. Qu'est-ce qui a envoyé l'étincelle dans la cheminée là? C'était quoi le déclencheur? Qu'est-ce que je me suis raconté comme pensée qui a fait grandir la flamme en moins de 12 secondes? Peut-être que je me suis raconté qu'il ne m'écoutait pas. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas « il ne m'écoute pas », c'est « je ne me sens pas écouté ». Et tu vois, tout de suite, ça change. Quand on se dit « je ne me sens pas écouté », ce n'est pas « il ne m'écoute pas ». Et ça évite d'attiser la flamme. Parce que si on veut attiser la flamme, on peut continuer à engueuler l'autre, on peut continuer à lui dire « c'est de ta faute si je suis en colère, tu ne m'écoutes pas, tu me gonfles », et accuser l'autre de notre propre flamme. De toute façon, ces notions, elles vont forcément se rejoindre. Soit l'autre te contamine, soit tu lui fais porter ton émotion, soit tu ne prends pas la responsabilité de ton émotion et tu fuis un peu, tu te remets en victime. Ces notions-là qu'on travaille forcément hein, dans n'importe quel coaching, de reprendre la responsabilité de ses actions, quand on veut travailler ses émotions, ben, on en vient aux mêmes étapes. Avant de reprendre la responsabilité de ses émotions, il faut pouvoir les comprendre. Et pour les comprendre, il faut oser les observer. Donc, si on avait aujourd'hui au live quelqu'un qui se dit « j'ai toujours été coupé de mes émotions, par quoi je commence ?», je lui dirais bah, « dans un moment où il n'y a pas de stimulation extérieure, où personne ne vous embête, vous vous asseyez et vous vous dites « ok, il se passe quoi là dans ma cheminée des émotions ? Qu'est-ce que je ressens là maintenant, tout seul, tranquillement ? Est-ce que je ressens une frustration ? Laquelle ? Est-ce que c'est fort ? Est-ce que c'est pas fort ? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est ma santé? Et ensuite, on continue l'enquête. Pourquoi je ressens ça? Est-ce que je pense que c'est dangereux? Est-ce que je pense que je n'ai pas assez fait? Est-ce que c'est par rapport à une norme? Est-ce que c'est par rapport à l'intervention de quelqu'un? En fait, quand on est tout seul, au clair, avec sa cheminée, on peut essayer de scanner comment ça s'est passé avant. Et pourquoi c'est qualitatif? C'est que quand on fait l'enquête pour nous, ben on évite d'envoyer... Vous voyez chier tout le monde parce qu'on fait déjà le travail avec nous. Et ensuite, quand on se dit « Ah oui, ben en fait, je suis en colère, mais je croyais que j'étais en colère pour ça, mais je ne suis pas en colère pour ça. » Parce que quand tu disais que tout à l'heure, tu ramenais des fois au fait de ne pas avoir le droit d'être indigné parce que tu avais fait la paix avec ton adoption, on peut croire que c'est toujours la même braise, mais non, hein, ce n'est pas toujours sur la même braise que notre émotion, elle se déclenche. Hein, parce que notre émotion, elle se déclenche sur nos besoins quotidiens. Ça veut dire que si tu n'as pas bien dormi, tu ne vas pas dire que c'est à cause de mon adoption. Tu vois, il faut quand même dissocier. Les braises, elles sont là tant qu'on ne les travaille pas. Mais on ne peut pas toujours dire « c'est parce que je suis hypersensible » ou « c'est parce que je suis adoptée » ou « c'est parce que je suis TDAH ». L'étiquette qu'on se donne n'est pas la réponse à tout. Par contre, aller voir quel besoin clignotait et aller voir comment la flamme s'est déclenchée, ça, c'est une réponse à tout. Cet outil, il marche dans n'importe quelle situation. Mais on peut avoir une résistance à vouloir chercher le besoin parce que c'est admettre qu'on a des besoins. Et quand on s'est oublié pendant des années, ben on fait passer les besoins des autres avant les nôtres. Donc, on est des fois beaucoup plus pertinent à aller voir les besoins de l'autre en face plutôt que les siens. Donc, c'est admettre d'être un peu égoïste. Et peut-être que tu as eu des gens, quand ils te parlaient d'être coupé de ses émotions, qui se disent « bah oui, mais je vais paraître pour égoïste si je m'occupe de moi. » Parce que c'est des choses que j'entends souvent. « Oui, mais on va croire que je pense qu'à moi. » Oui, mais il est temps de penser à soi. On vit qu'avec soi, hein, sur Terre, c'est pas l'autre qui va vivre notre vie. Hein. Donc, à un moment donné, si on ne pense pas à soi, je suis désolée, mais ce n'est pas votre femme, votre mari ou votre enfant qui va vivre votre vie à votre place. Donc, c'est peut-être dur à entendre, mais quand on n'est pas prêt, on se dit que la montagne est trop grande. Et quand on se dit « Ok, mais je peux commencer par le premier camp de base, juste le premier camp de base, et après, on verra. » Donc, découpez votre montagne en tranches. Et juste, la première étape, c'est s'asseoir et se dire comment je me sens, pourquoi je me sens comme ça, qu'est-ce qui m'a déclenché et quels besoins clignotaient sur mes besoins actuels. Est-ce que ça paraît assez explicite comme petit guide?
Oui, en tout cas, pour moi, ça l'est. Mettez des petits pouces si ça l'est aussi pour vous, si cet entretien, ces échanges vous ont aidé, vous ont apporté un petit déclic. Partagez-le si vous pensez qu'il peut servir. Merci beaucoup, Séverine, parce que tu nous as donné énormément d'outils. Si j'essaye de résumer, donc communication non violente, prendre ses responsabilités, accepter les émotions, de voir ce que l'on ressent, se réapproprier finalement soi pour être. Voilà, je pense pense que c'est les trois que j'ai en tout cas retenu, plus ton dernier outil. Voilà, vraiment prendre ses responsabilités, parler en jeu, switcher tout ça. Je pensais pas qu'on allait venir au lien justement d'être victime. J'avais jamais fait le lien non plus, la victimisation. Donc, se couper de ses émotions, très très large. Donc, merci beaucoup pour ton intervention. Je vous ai mis, pour ceux qui sont intéressés de suivre Séverine, dans la description, ton podcast, Les Petits Plus Zen. Vous pouvez la retrouver sur le site. Tu es aussi sur LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, sur Clubhouse, partout. Donc, très joignable. N'hésitez pas à entrer en contact avec elle si vous avez plus de questions. C'est vrai que c'est un sujet peut-être un peu sensible, vous préférez peut-être la contacter en privé ou même moi, je pourrais relayer. Et puis, vous avez entendu parler du sommet, le sommet virtuel des adoptés qui commence ce samedi. J'ai super hâte de vous retrouver. 15 intervenants pour parler aux personnes adoptées de l'impact, de les conséquences de leur adoption dans leur vie, ce que l'on ne nous a pas dit, ce que l'on n'a pas dit à nos parents. Vous repartirez avec des outils, bah, comme Séverine vient de nous donner, que vous pouvez appliquer au quotidien, des clés pour démarrer, switcher, changer un petit peu de mindset, aller mieux, s'ouvrir, même si on passera par des hauts et des bas. Vous aurez aussi l'occasion de networker avec d'autres personnes adoptées d'un peu tous les pays, que ce soit d'origine ou d'habitation. Merci beaucoup de votre écoute. À bientôt.
Au revoir.
Merci pour ton écoute. J'espère que tu as trouvé quelques clés supplémentaires pour te réconcilier avec tes émotions fortes. Pour aller beaucoup plus loin, le parcours Emotizen reprend le 1er mars. Tu peux encore bénéficier des préventes puisque les ventes vont ouvrir du 14 au 20 février. Si tu es intéressé, passe-moi un message privé et je te donne le lien avec la réduction jusqu'au 13 février. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.